Mais attendez. Ouais. Je dois le dire avec quel ton?
Avec un ton de question, c'est-à-dire.
Ok, d'accord. 1, 2, 3, go.
Autour de la question est à Dakar.
D'où ça vient?
C'est pour qui?
Qu'est-ce que ça va s'entraîner?
Jusqu'où ça va nous entraîner?
Et à quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour et merci aux Go du Jollof de nous avoir prêté leur voix. Ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs à Dakar, dans notre studio nomade improvisé par notre réalisateur Thibaut Baduel, avec le soutien de toute l'équipe technique de l'Institut français, où nous sommes à l'ombre du fromager, non loin du baobab de l'Institut. J'en profite d'ailleurs pour saluer le public. Nous attendons encore tous les participants à la conférence des journalistes scientifiques francophones, mais qui est présent ici pour nous interroger ensemble sur la place du journalisme scientifique en Afrique. En compagnie de mes consoeurs et confrères venus de toute la francophonie, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Québec, de Suisse et de France, pour participer ici à Dakar à l'université Cheikh Diop, au CESTI, à une semaine d'échanges, d'ateliers et de formations pour développer et défendre la culture scientifique, un enjeu de taille sur le continent face aux crises sanitaires, environnementales et climatiques dans nos sociétés numériques où les fake news vont si vite. Comment, au sud comme au nord d'ailleurs, faire passer l'information scientifique, la parole et les travaux des chercheurs et des chercheuses sur le continent? Nous n'éviterons aucun sujet qui fâche, notamment sur la libre circulation des savoirs, des hommes et des femmes qui les portent, en compagnie de nos invités, le journaliste Kossi Elombalao, président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, venu du Togo. Bonjour Kossi.
Bonjour Caroline et merci de me recevoir dans cette émission.
Venu du Cameroun, de Yaoundé, la journaliste scientifique Adrienne Ngono Ebsemoussang. Bonjour Adrienne.
Bonjour Caroline, merci de l'invitation.
Ravie de vous avoir, vous avez été chef de la rubrique santé et environnement du quotidien Mutation et vous êtes aujourd'hui en charge du site Science Watch Info. Également venu du Cameroun, mais cette fois-ci basé à Douala, Julien Chongwang, rédacteur en chef de l'édition de langue française de SciDev. Bonjour Julien.
Bonjour Caroline et bonjour aux auditeurs de Radio France Internationale que j'ai le plaisir de retrouver.
Et puis venu de Dakar jusqu'à Dakar, hein, le socio-anthropologue et journaliste spécialisé dans les questions d'environnement, ici au Sénégal, Moustapha Sen. Bonjour Moustapha.
Bonjour Caroline et bienvenue chez vous.
Merci. Et puisqu'on est chez vous, cher Moustapha, on vous laisse le choix musical d'ouverture autour de la question « Quelle place pour le journalisme scientifique en Afrique ?» C'est Souleymane Faye sur RFI avec votre titre favori, Moustapha. Mon wolof n'étant pas terrible, je vous laisse annoncer. C'est parti.
Fokay jeliti kula begini man fokay jeliti kula sapeni man fokay jeliti kula nabeni man fokay jeliti kuye wakhaji kudidi fol na sangunga kule wakhte gejobu kule digini man nek ak fa la bour bi yalla fetele ak fa nga beug sa bop fete fuma koy jeliti kuma no bendi yow fuma koy jeliti kuma yfire ni yow fuma koy jeliti kuma ñeme wax deug ni yow fuma koy jeliti.
Souleymane Faye, sa belle voix sur RFI pour tous les nostalgiques du Khalam de dont je suis. Nous sommes en public à l'Institut français de Dakar autour de la question de la place du journalisme scientifique en Afrique. Comment le développer, Kossi Balao? C'est vous en tant que président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone en étroite collaboration avec nos associations de journalistes scientifiques européens qui êtes à l'initiative et l'organisateur de cette semaine d'échanges, de rencontres et de formations à l'UCAD à Dakar. C'est un vrai défi, j'imagine, d'organisation. Et ça répond aussi à un vrai besoin de la part de vos confrères et consoeurs qui ne sont pas si nombreux que ça sur le continent.
C'est une vérité qu'il y a très peu de journalistes scientifiques en Afrique francophone. Et d'ailleurs, l'étude faite par le professeur Jevem Barga, qui est professeur à Montréal, il le dit assez bien, on connaît très peu de journalistes scientifiques en Afrique francophone parce que c'est un sujet que les rédacteurs en chef ou que les propriétaires de médias ne trouvent pas vendeur. l'actualité scientifique ne fait pas vraiment la une des médias et on a l'impression que le public ne s'y intéresse pas, ce qui est vraiment faux. Parce que on l'a vu avec la crise de la COVID-19, que l'actualité sanitaire a été abondamment couverte par les médias et c'était une question de santé, une question de vie et de mort. Et les populations, le public était à la recherche de la bonne information et cette bonne information ne peut être fournie que par des journalistes. Mais le constat pénible qu'on a pu observer en tant que journaliste scientifique, c'est de voir des journalistes généralistes qui n'ont aucune formation en sciences, qui n'ont jamais couvert des questions de science, se lancer aujourd'hui dans le rapportage de la COVID-19 et ça a donné tout ce qu'on a connu de la désinformation totale. Alors il faut que les journalistes scientifiques soient formés, il faut qu'ils se rendent compte et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons organisé ici à Dakar la première conférence mondiale des journalistes scientifiques et francophones, nous retrouver, tirer les leçons de la crise d'information que nous venons de traverser et aussi partager les bonnes pratiques entre nous et discuter de la façon dont nous pouvons couvrir une autre crise majeure, celle du climat.
Bien sûr, crise environnementale, crise climatique qui touche en plus particulièrement les pays du Sud. Adrienne, peut-être, vous qui êtes journaliste spécialisée en santé et environnement au Cameroun, vous faites le même constat que Kossi Balao ?
Oui, tout à fait, je fais le même constat et c'est vraiment triste. Parce que les journalistes s'intéressent beaucoup plus aux questions politiques, économiques, sport et autres. Donc, quand vous vous intéressez à la santé, à l'environnement et autres, on vous voit comme quelqu'un d'anormal, quoi. Et les raisons sont là. C'est parce que, d'abord, on rencontre beaucoup de difficultés au niveau même des rédactions pour lesquelles on travaille, les sujets ne passent pas. On dit ça ne vend pas le journal. Ça ne vend pas le journal parce que assez souvent, l'information sur la santé ou l'environnement ne peut pas faire la une. Elle ne peut pas faire la une. Et on l'a ressenti dans le traitement de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, qu'aussi l'a si bien relevé. Il y a des journalistes généralistes qui se sont lancés dans le traitement de l'information et c'est beaucoup plus à eux qu'on prêtait le flanc. C'est-à-dire que lorsqu'ils approchaient une source, elle leur accordait facilement une interview. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'information était beaucoup plus traitée comme des faits divers. Il n'y avait pas l'aspect scientifique qui ressortait dans les articles. Et c'est généralement ce qui se passe. Même lorsqu'il y a une inondation, on la traite comme un fait social, c'est-à-dire qu'un fait divers. L'inondation a noyé tel nombre de maisons, l'inondation a fait tel nombre de morts. On ne se pose pas les questions fondamentales. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'inondation? Pourquoi il y a eu des morts? Et on ne s'approche pas du scientifique pour dire voilà ce qui s'est passé.
C'est
voilà,
ça,
voilà,
en raison de changement climatique, oui, en voilà, raison de sécheresse, d'événements violents. Oui. Julien Chongwang, même constat aussi. Alors vous êtes sur un site, SciDev, qui est un excellent site d'information scientifique, mais qui s'adresse quand même beaucoup à la fois aux scientifiques, aux chercheurs, aux gens intéressés et aux entreprises et aux dirigeants, c'est ça ?
Alors, oui, nous avons pratiquement fait les mêmes constats au niveau de SciDev. Il est clair que sur le continent africain, l'information scientifique paraît un peu paraît repoussante pour un grand nombre de journalistes. Et les raisons à cette situation peuvent se trouver dans le caractère nécessairement très pointu de l'information scientifique et par ailleurs, accessoirement, peut-être dans le difficile accès, n'est-ce pas, à l'information scientifique.
C'est ça, même pour vous, journaliste scientifique, enfin,
oui,
d'avoir accès aux chercheurs.
Oui, c'est pas très évident. C'est pas très évident parce que, comme nous le disions d'ailleurs tout à l'heure, lors de la conférence à laquelle nous assistons tous ici, le tout n'est pas, n'est-ce pas, de mettre la main sur un chercheur. Il faut encore réussir à le convaincre à répondre aux questions que vous voulez bien lui poser. Parce qu'il nous est arrivé à plusieurs reprises de toucher, y compris un chercheur, sur une étude qu'il a conduite.
Son domaine de recherche,
voilà.
Oui.
Et puis il vous dit, il ne peut pas répondre parce que les institutions de recherche sont trop profondément politisées. Mmh. Et souvent, une fois que l'étude est sur le marché, le chercheur, pour en parler, a besoin de l'autorisation peut-être du directeur de l'institut
ou
parfois du ministre. Il y a eu des cas où on nous a dit, c'est le ministre de la Recherche scientifique, il faut écrire, adresser une lettre au ministre de la Recherche scientifique pour qu'il nous autorise à parler d'une étude que nous-mêmes nous avons produite. Mm-hmm. Et ça, c'est des cas encore où vous avez de la chance, parce qu'il y a d'autres cas où vous n'avez pas du tout de chance, où vous écrivez au chercheur, il vous lit et il ne répond pas. Ou bien vous l'appelez, il voit les appels, il ne décroche pas.
Ils ne voient pas l'intérêt, en fait, de communiquer leur recherche.
Absolument. Parlant de la COVID-19, moi, je vais vous prendre un exemple très précis que nous avons vécu au Cameroun. Au cœur de la pandémie, il y a des chercheurs de l'Université de Douala qui sont les leaders d'une étude qui est publiée dans une grande revue internationale. Je n'ai pas le nom en tête là maintenant. Mm-hmm. Ils sont à l'Université de Douala. Je contacte l'auteur principal qui est à l'Université de Douala. Le jour où on a rendez-vous, il me dit non, il n'est plus disponible. J'écris sur WhatsApp, il ne répond pas. Il lit, mais il ne répond pas. Donc, vous voyez...
Donc, il y a des raisons politiques qui nous dépassent complètement, au fond.
Absolument, absolument. Donc, c'est extrêmement compliqué.
Moustapha Sen, je vous ai vu hocher la tête et sourire. Vous êtes dans le même cas, ici au Sénégal? Enfin, c'est compliqué aussi, cet accès aux sources, cette communication scientifique.
C'est à peu près la même réalité partout, à part que bon, l'objectivité journalistique aussi nous impose à ne pas toujours jeter l'opprobre sur les autres.
C'est vrai.
On ne va pas être cynique au point de dire que la pandémie du Covid a été déclencheuse de quelque chose de positif. Ça a été ça, en fait. L'électrochoc que ça a créé.
L'électrochoc.
La pandémie a été une occasion vraiment de renouvellement de paradigme, de révision, de reparamétrage de beaucoup de choses. Et on ne va pas mettre ça à l'actif ou au négatif de quelque chose. Mais ça a été ça, quand même, le fait.
Ce qui veut dire aussi que pour toutes les questions environnementales notamment, dont vous vous occupez, climatiques,
les questions, les questions de gouvernance, de diplomatie, y compris même d'image que nous, Africains, nous avons de nous-mêmes et de l'image qu'on accepte que les autres portent sur nous-mêmes. Je veux dire, la pandémie a été quelque chose de...
Qui a fait basculer, qui a fait bouger.
Oui, d'assez bousculateur, un peu, si ce terme existe, pour remettre les choses à l'endroit et au moins susciter une réflexion. La preuve, il y a une énorme effervescence d'idées à tous les niveaux, portées par des intelligentsias africaines, aussi bien à l'intérieur du continent que dans
les sphères
diasporiques, qui ont alimenté la réflexion. Et le temps peut-être viendra où il faudra capitaliser sur tout ce que les intellectuels qui ont été absents du débat idéologique international pendant des décennies, ont mis sur le temps de la pandémie à produire entre ce que les Félix Sarr ont écrit, et les chroniques quotidiennes, les Boubacar Boris Diop, pour ne parler que des compatriotes sénégalais que je connais le moins mal, la Fondation Mandela.
Mais dans on a les entendu les voix du continent, on a entendu les voix du Sud peut-être
des
en général
sud,
aussi.
C'est dommage qu'il a fallu passer par la pandémie pour que ça arrive. Mais comme on y est arrivé, autant potentialiser, ne pas se priver de récolter ce que la douleur nous a donné à vivre dans notre chair et dans notre vécu.
Je propose de réfléchir là-dessus parce que je trouve ça très intéressant autour de la question quelle place pour le journalisme scientifique en Afrique. Cette fois-ci, ce sera peut-être aussi à l'heure des sites web parce qu'on va y venir. Hein. Vous êtes notamment Adrienne et Julien, mais Kossi aussi, hein, sur des sites web. Nous sommes donc ici, je vous le rappelle, en public à Dakar, à l'Institut français, mais on va y revenir juste après avoir écouté. Cette fois-ci, c'est votre choix musical, Kossi Balao, qui va nous faire du bien. Vous avez choisi une voix légendaire du Togo.
Bella Bello.
Et sa chanson magnifique.
Bléo.
Patience, tiens donc, de circonstances. Bléo sur RFI.
Blue.
vous sur RFI dans la version originale de Bella Bello. Merci pour ce très joli choix musical importé de votre Togo, Kossi Balao, ici à Dakar, à l'Institut français où nous enregistrons en public avec mes confrères et consoeurs journalistes scientifiques francophones du continent, Kossi Balao donc, Adrienne Ngono, Julien Chongwang, tous les deux venus du Cameroun, et Moustapha Sen de Dakar. On a une petite pensée tout de même pour une de nos consoeurs, la journaliste haïtienne Laura Louis, qui devait venir, qui devait être avec nous, Kossi Balao, et qui n'a pas pu venir. Elle a pas
oui, Laura Louis fait partie des 200 journalistes qui ont postulé à notre appel à candidature pour participer à la conférence que nous organisons ici à Dakar. Et malheureusement, les activités sont paralysées en Haïti, mais elle a eu beaucoup de complications pour obtenir son visa, pour voyager, participer. Et c'est vrai que c'est une réalité pour les journalistes africains, obtenir des visas pour participer à des événements comme ceux-ci en Europe. C'est un parcours de combattant.
C'est un vrai parcours du combattant. Je pense à vous, Julien Chongwang, parce que moi, je suis ravie de vous avoir en face de moi, parce qu'il y a quelques années, c'était à Lausanne, on devait faire une émission ensemble. Vous venez du Cameroun, vous n'aviez pas eu votre visa, et on vous avait par téléphone sur une ligne très crachotante. Ça fait quand même partie des difficultés des journalistes, scientifiques ou pas d'ailleurs, des pays du Sud, que de pouvoir se déplacer vers le Nord, mais même Sud-Sud, quoi.
Sud-Sud, peut-être beaucoup moins, mais surtout Nord-Sud. Mm-hmm. Surtout Nord-Sud. Et je suis content que Kofi ait relevé ce détail en disant qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un parcours du combattant. J'ai même envie de dire c'est la croix et la bannière. Lorsqu'il va falloir obtenir le visa pour aller en Occident, j'ai essuyé 3 refus de visa au cours de la même année en 2019. Ce refus pour Lausanne.
La conférence,
Journalistes scientifiques. La même année, je devais assister à une conférence sur le blé qui se tenait au Canada. Ils m'ont refusé le visa, c'était quelques mois. Le troisième exemple, c'était plutôt en 2017. Il fallait assister à la conférence internationale des journalistes scientifiques, le World Conference of Science Journalists, qui se tenait à San Francisco. Ils m'ont refusé le visa. Mais j'ai saisi l'occasion du plateau de RFI pour interpeller les autorités diplomatiques consulaires occidentales. Parce qu'il y a comme une sorte de dichotomie entre leurs stratégies. Un journaliste, nous tous qui sommes ici, vous voyez qu'aussi vous me voyez, nous offrons toutes les garanties pour pouvoir revenir dans notre pays.
Bien sûr, parce vous que travaillez
nous avons,
dans voilà, votre
nous,
pays.
Nous avons une position stable, nous avons des familles que nous encadrons. Nous avons déjà été dans ces pays et nous sommes revenus. Donc nous offrons toutes les garanties pour aller faire le travail pour lequel nous sommes partis et pour revenir. Mais l'impression que moi, en tout cas, j'ai eu à l'occasion de ces refus, c'est que j'ai eu l'impression que les visas s'accordent à la tête du client. On ne vérifie même pas, c'est-à-dire qu'on reçoit ton dossier, on dit bon, ici on donne, là on ne donne pas, là on n'a même pas besoin de regarder. Parce que dans mon cas, par exemple, ils ont demandé des extraits de comptes bancaires, ils ont demandé l'ordre de mission de l'entreprise, ils ont demandé toutes les garanties, le certificat de mariage ou l'acte de mariage, si vous voulez. Tout cela a été produit. Et après, on vous refuse le visa avec un argument assez bidon, comme quoi on n'est pas très sûr que vous allez rentrer.
Mais c'est ça. Je vois qu'Adrienne doit réagir aussi.
Oui, je suis du même avis, mais je voudrais dire qu'il y a certains... Ce n'est pas simplement Sud, Nord. Il y a aussi certains pays, hein, surtout de la partie anglophone, qui durcissent avec leur visa lorsque vous êtes francophone. Je ne comprends pas pourquoi.
Il y a cette question aussi de difficulté d'aller d'un pays d'Afrique francophone à un pays d'Afrique anglophone.
Vous
qui êtes au Cameroun et dans cette situation-là, vous savez de quoi vous parlez.
Oui, tout à fait. Il y a des pays, vraiment, parfois même lorsque je demande simplement un visa de transit, ils ne me l'accordent pas. Nos dirigeants doivent se rapprocher les uns des autres pour comprendre, parce que ça ne nous facilite pas la tâche.
Bien sûr. Or, l'importance de la culture scientifique, que ce soit vous, journaliste scientifique ou chercheur ou chercheuse...
Est-ce que j'ai besoin de vous préciser, Caroline, que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons porté notre choix aussi sur Dakar, parce que moi, par exemple, je n'ai pas besoin de prendre un visa à Lomé avant de venir à Dakar. Mm-hmm. Et on s'est dit que les journalistes vont pouvoir arriver à Dakar aussi facilement, hormis le cas de Laura Louis qui voyage depuis Haïti. Mais il faut quand même que les ambassades regardent ce côté et qu'ils facilitent vraiment l'accès au visa aux journalistes africains et aux journalistes aussi scientifiques. On a besoin de tisser des collaborations et ne vont pas se faire des maisons en maison. Non.
Mais voilà, c'est ce que je voulais dire et c'est ce que vous essayez de faire. C'est tisser des collaborations, c'est de parler entre vous sur des sujets qui sont essentiels, on est bien d'accord. Il y a des sujets de crise sanitaire, de crise environnementale, de crise climatique. Je sais que Moustapha, vous travaillez beaucoup sur ces questions climatiques, sur la pêche en lien avec les populations aussi. Donc c'est vraiment des sujets fondamentaux sur lesquels il faut qu'on collabore, qu'on réseaute. culottes, comme on dit au Québec, comme disent nos camarades québécois. C'est vraiment ça.
Encore une fois, l'objectivité nous impose aussi de parler de nos relations. Il y a des confrères africains qui sont dans des pays pas très loin de Dakar à vol d'oiseau, mais qui ne peuvent pas arriver à Dakar pour des raisons du même registre. Je veux bien qu'on règle ces questions-là, mais qu'on règle aussi les choses.
Ouais, entre libre circulation pour un chercheur qui voudrait venir du Mali.
D'un compliqué. Pays à un autre.
Donc il y a des problèmes dans tous les sens.
Essayez de faire un reportage à partir de Dakar vers le Mali ou vers la Guinée. Mais vous allez en vivre comme moi, je l'ai vécu, jeune journaliste. Vous allez avaler des couleuvres entre des checkpoints que rien ne justifie, le bachis que vous êtes obligé de donner, parce que c'est une réalité aussi très, très, très africaine.
Et je crois qu'une c'est une réalité partagée, pour le coup, en fait.
Partagée, mais en tout cas qui était tellement prégnante que la pandémie du Covid nous a donné à ouvrir les yeux sur ces réalités-là et de voir, en fait, que des thèses qui avaient été formulées sur, comme quelqu'un qui s'appelle Cheikh Diop sur le fédéralisme africain, un État fédéral aurait existé 40 ans ou 50 ans avant, ces problèmes de mobilité ne seraient pas posés.
Mais ça, c'est de l'ordre du rêve. On n'y est pas, mon cher Moustapha. On est ici à Dakar.
L'utopie, c'est la philosophie du pas encore être, mais du possible aussi. Quoi.
Ah, donc, du possible. Alors ça, j'aime bien. Autour de cette conférence des journalistes scientifiques francophones, comment faire passer justement la science? Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, j'aimerais qu'on parle un peu aussi, c'est ce journalisme scientifique à l'heure des réseaux, sur le web 2.0. Vous avez parlé aussi de questions de désinformation, notamment autour du Covid. Mais que ce soit vous, Adrienne, vous, Cossy, vous, Julien, vous travaillez désormais. Vous, Adrienne, vous avez quitté la presse quotidienne, évidemment, pour fonder un site, un site scientifique.
Tout à fait.
Est-ce qu'on est aussi dans une sorte de bascule comme ça? Il y a peut-être d'autres moyens d'informer et d'être juste scientifiquement et de toucher la population. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrienne?
Oui, il y a bien d'autres moyens d'informer, de toucher la population. Bon, on dit qu'il faut adapter le média à la cible. Ça dépend de la cible qu'on veut toucher. Et je vais vous dire que si je suis partie du journal où je coordonnais la rubrique santé-environnement, c'est que il arrivait des moments où l'actualité politique dominait et du coup on vous disait non, votre page va attendre, elle va attendre. Et elle attendait tellement longtemps. Et bon, parfois le sujet devenait obsolète. Je me suis dit, bon, pourquoi pas avec des amis faire quelque chose pour revaloriser les sujets scientifiques, même si ce n'est pas du tout facile. Et en dehors de produire un journal papier qui est mensuel, on a aussi pensé à un site qui est débutant. C'est-à-dire qu'on a compris qu'aujourd'hui, l'information ne peut facilement circuler que si on utilise cette voie-là et c'est incontournable. Et puis, la crise de Covid-19, là,
l'a montré encore plus. Et nous, on a eu d'ailleurs deux témoignages aux auditeurs sur Facebook qui sont engagés. Alors, il y a Matar Diop, un auditeur sénégalais qui n'est pas ici au Sénégal en ce moment et qui nous a envoyé un petit message pour nous dire que lui avait initié la plateforme Parlons Science Sénégal et Parlons Science TV sur YouTube. Un de vos compatriotes camerounais, docteur en cosmologie, Ragil Ndommo, a créé la chaîne YouTube Science High Tech Appcaster. Est-ce que c'est, Julien, peut-être une des formes d'avenir de ce journalisme scientifique? Et est-ce que du coup, vous êtes sur un site qui s'adresse aussi à des décideurs, est-ce que du coup ça peut toucher un public plus large? On a aussi, nous, toute une génération de youtubeurs scientifiques, par exemple. Est-ce qu'il faut peut-être aller dans ce sens-là aussi?
Oui, je crois que la multiplication des supports de diffusion de l'information scientifique est décidément l'avenir ou même de l'information tout court. Ouais. Ceci ne vaut pas que pour l'information scientifique. Et aujourd'hui, Internet nous met dans un contexte, dans une situation où on a beaucoup une large circulation de fake news. Mais je crois que ça nous met, nous, journalistes, et en particulier nous, journalistes scientifiques, face à un nouveau défi qui est, n'est-ce pas, celui de s'imposer dans un environnement où n'importe qui aujourd'hui est capable de diffuser l'information. À travers Facebook, à travers TikTok, à travers Twitter, bref, tout le monde. Maintenant, il est important que les médias conventionnels, que les journalistes, à proprement parler, trouve le moyen de s'imposer sur ces différentes plateformes. Et c'est en cela qu'il est nécessairement recommandé ou recommandable, n'est-ce pas, que chaque rédaction, qu'elle soit une rédaction de presse écrite, qu'elle soit une rédaction de radio ou de télévision, trouve le moyen d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, d'avoir un site web. Et on le voit très bien, par exemple, avec RFI, je ne sais plus seulement la radio, mais aussi la presse écrite. Parce que
lorsque vous allez sur,
on peut également lire. Donc, je crois que l'avenir de la diffusion de la bonne information réside à n'en point douter dans la multiplication des supports en exploitant nécessairement les médias en ligne. Voilà.
Autour de la question qu'elle place pour tous les journalismes scientifiques sur le continent africain, nous continuons de nous interroger en public à l'Institut français de Dakar, où nous avons eu envie de partager la petite musique, cette fois-ci d'un super poète, rappeur de Saint-Louis, à quelques heures d'ici, au bord du fleuve Sénégal. Il s'appelle Index Nulkouk et il chante quoi ? L'amour, forcément, sur RFI, Retoum Begel.
Khalima top sama yaram di daw si rythme cardiaque mbeugel dina fe bar dina fach di nga bëgg nit diko nebb say sik ba fardiaque mbeugel garab la si sa jëm la xo kaddu ciofe la ay sa xal si say no Bagel dafa am la ku bopam ba da fay wax nga ne ma jak la xamni yow it beug nga ma mom lay gisay o may xol Bagel den jum te si la bok dikte le bou ken manul def zero fol kon bul mer ba wer si mbedd mi lo xamni si lebu say lañu ko sun bon fo si yow la joy yaru bagel moy li ma do malay xalaat ba dof si yow da summa jogul taxaw si sama bop dina yennu sama ay dal binuy gise say biddeu beuti ferñent mbeugel tak si sa bir nga déclaré ma say flam manuma la fay boko waxul won duma am fi tan mbeugel di yey sama xol ma jëndu guro jox gi mam xamna sa ñeuk xamna li ngay jaar motax ma ñaan si la baña waaj xamna itam ni say xarala te ben jigen waru si naaj
Le rappeur musicien Index Nulkouk sur RFI, il vient de Saint-Louis. Autour de la question qu'elle place pour le journalisme scientifique en Afrique, nous enregistrons cette émission en public à l'Institut français de Dakar, en compagnie de mes consoeurs et confrères Kossi Balao, Adrienne Ngono, Julien Tchongwang, Moustapha Sen, qui développent, défendent et diffusent la culture scientifique sur le continent. Un enjeu de taille, un défi aussi, sur lequel nous avons interrogé le formidable philosophe et historien des sciences sénégalais Souleymane Bachir Diagne, aujourd'hui professeur à Columbia University. Il sera aussi, Souleymane Bachir Diagne, le premier professeur invité en 2023 à l'ENS à Paris dans le cadre du programme Sud du nouveau campus euro-africain en partenariat avec les universités africaines. Écoutez son éclairage sur la nécessité d'un vrai journalisme scientifique sur le continent.
Je crois qu'il est important effectivement de partager avec les journalistes africains cette vérité qui me semble fondamentale qu'aujourd'hui, les enjeux qui sont liés aux sciences et aux techniques sont absolument énormes. Pour la lecture de la marche du monde, on sait que les grandes forces de transformation aujourd'hui sont là. Ce que l'intelligence artificielle va faire de notre monde, on commence à en voir les prémices, mais on ne sait pas où cela va aller. Et donc, il est crucial que justement ceux qui sont sur le front de l'information et la pleine intelligence de ces enjeux-là, des tendances qui sont à l'œuvre, et donc de la science, des directions prises par les sciences et les techniques aujourd'hui, pour mieux faire encore le métier admirable qui est fait par les journalistes.
Et vous êtes vous-même, Souleymane Bachir Diagne, un éminent philosophe et aussi un historien des sciences. Mmh. Mais c'est important et ça vous a servi ?
C'est important, ça m'a servi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais consacré mon sujet de thèse à la réflexion sur l'algèbre de Boole. Je voulais comprendre notre civilisation de l'ordinateur. Nous vivons dans un monde du numérique, dans un monde du digital et donc je voulais savoir ce que signifiaient ces deux chiffres, 0 et 1. qui sont au fond le symbole de notre époque aujourd'hui. J'ai parlé d'intelligence artificielle, tout cela tourne autour de 0 et 1. Et les développements en Afrique d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui, ce qui ne se sait pas beaucoup, et c'est peut-être là aussi que les journalistes devraient mieux informer les Africains eux-mêmes et le monde de la réalité africaine, c'est que le numérique, le digital a pris une part énorme déjà dans les budgets africains. Ça veut dire que nous n'avons plus affaire à des économies qui sont simplement des économies d'extraction, des économies rurales. Il y a une transformation profonde qui est en train de se passer sur le continent africain aussi et qui est liée à la révolution du numérique. Et donc, il est bon que les journalistes soient véritablement aux avant-postes pour le déchiffrage de ce qui se passe et la projection vers ce qui va se passer.
Qui veut réagir? Je vous ai vu tous, toutes, oui, à ces propos de Souleymane Bachir Diagne. Et je vois Adrienne Ngono qui prend même des notes, Adrienne. Vous avez envie de réagir à ces propos de Souleymane Bachir Diagne?
Oui, moi, je lui donne parfaitement raison. On ne peut pas se mettre en dehors de la réalité actuelle que nous vivons. Le journaliste a sa place plus que jamais dans... Je ne vais pas dire la promotion de l'image, mais il faut faire savoir ce que l'on fait en Afrique.
C'est ça. Hein.
Oui. Donc, c'est la place du journaliste et beaucoup plus scientifique. Parce que souvent, on dit que les Africains cherchent et ne trouvent pas. Pourtant, ils trouvent.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est ce qu'ils trouvaient où? Dans les tiroirs. Donc, c'est aussi pour moi une façon d'interpeller nos chercheurs pour qu'ils acceptent cette collaboration.
Bien sûr, oui. De vous parler,
oui,
et de collaborer.
Oui, de nous parler, parce que nous avons des difficultés d'accès aux sources. Parce que moi, j'ai passé le temps à travailler dans la presse à capitaux privés. Il y a une différence au Cameroun. Lorsque vous travaillez pour la presse dite à capitaux publics, ça veut dire que les ministres savent que vous êtes acquis à leur cause. Si vous appelez à minuit, il va vous répondre. Ce n'est pas le cas pour nous. Mm-hmm. Celui qui travaille dans la presse à capitaux privés. Donc, vous êtes en train de trouver des astuces pour comment le convaincre, pour qu'est-ce qu'il va me parler, est-ce qu'il ne va pas me parler. Du coup, vous pouvez proposer une enquête à la rédaction qui ne passera pas parce que vous avez buté sur... Le problème des sources.
On en revient donc vraiment à ce problème des sources, à ce problème du lien aussi entre chercheurs, chercheuses et journalistes scientifiques. Ça fait partie aussi, Balao, d'une des thématiques de cette conférence des journalistes scientifiques francophones. Vous avez aussi invité des chercheurs et des chercheuses. On entend un petit bruit là, on est à l'Institut français, je crois qu'il y a une petite voiture qui se gare derrière. Kossi Balao, ça fait partie vraiment de la thématique de cette conférence. Hein.
Avant de venir à cette émission, nous étions en train d'organiser avec des scientifiques basés ici à Dakar un networking event pour discuter ensemble de la meilleure façon dont nous pouvons collaborer avec eux. Justement, les chercheurs, ils ont cette méfiance envers les journalistes. La raison que la plupart d'entre eux donnent, c'est qu'ils ont peur de voir dénaturer leurs propos. Ils ont peur aussi de lire des articles qui ne les reflètent pas. Mais il faut juste comprendre que le journaliste a une mission, informer le public. Et le journaliste n'est pas une quête de résonance d'un chercheur. Et
du pouvoir, ni d'un chercheur, en fait,
d'un
c'est
chercheur,
ça.
Hein. Oui. Et le journaliste n'est pas là, en fait, pour plaire aux chercheurs ou pour plaire aux scientifiques ou pour plaire... Nous avons un engagement de loyauté envers le public. Et les chercheurs doivent aussi comprendre que le journaliste scientifique ne peut pas utiliser le même jargon que... Nous avons l'obligation de simplifier le discours
bien sûr,
des scientifiques.
Bien sûr.
Nous avons l'obligation de traduire, de faciliter un peu et de permettre au grand public de savoir que la science peut être accessible. Beaucoup pensent que la science est ésotérique, qu'elle est compliquée, qu'on ne peut pas la comprendre, mais c'est le devoir des journalistes scientifiques de dire...
C'est
en
ça,
fait,
de vulgariser tout en restant juste. C'est ça
fait.
Qui est le plus compliqué, d'ailleurs. Mais c'est ça le travail. Julien ou Moustapha, je vous vois. Oui, Julien.
J'en viens à ce que disait Adrienne. Pour l'exemple précis du Cameroun, nous sommes face à une situation extrêmement compliquée parce que, d'un côté, les médias publics ont un peu plus accès à l'information que les médias privés.
D'accord.
Mais de l'autre côté, il se trouve que ces mêmes médias publics ont des blocages qui les empêchent d'aborder un certain type de thème. Donc, vous avez des gens qui accèdent à l'information, mais qui ne peuvent pas la traiter de façon objective parce qu'il y a des contraintes politiques, administratives derrière.
Donc, ils ne parleront pas de science, en fait, ils ne traiteront pas de science. Voilà.
De l'autre côté, vous avez ceux qui peuvent traiter l'information avec beaucoup plus d'objectivité, mais qui n'ont pas accès à l'information. Donc, nous sommes face à une véritable situation, une quadrature du cercle, si vous voulez, c'est-à-dire difficile à résoudre. Et nous l'avons vu d'ailleurs avec la crise sanitaire. Il y a eu au Cameroun de nombreuses conférences de presse qui étaient données soit par le ministre de la Santé lui-même, soit par des responsables du ministère de la Santé ou du ministère de la Recherche scientifique. Mais l'accès était très difficile parce qu'on vous dit, pour la conférence, il y a un nombre très limité de personnes qui ont accès à la salle. Donc, vous avez quelques personnes qui sont dans la salle et en priorité les journalistes du secteur public.
C'est ça. Et pas vous les autres, pas ceux qui pourraient vraiment poser relayer
même des
l'information
questions.
Et poser des questions qui fâchent voilà. Parfois aussi.
Voilà.
On
et
est
donc,
d'accord.
On prend le soin au moment de la sélection donc de retenir ceux dont on est sûr qu'ils ne vont pas déranger, ils ne vont pas venir contrarier le responsable du ministère qui
mais
parle.
Comment
or,
ne pas
Dieu seul
déranger.
Sait combien
ben, voilà.
D'informations douteuses ont été diffusées pendant cette période. Donc, vous voyez le type de situation qu'on est appelé à gérer.
Complexe, ubuesque, j'ai envie de vous faire réagir, parce que je vois que vous en avez envie aussi, Moustapha Sall, mais c'est vrai qu'on est dans des situations complexes, en fait, très, très complexes, et pour faire passer une information qui, elle-même, est aussi complexe.
La question est posée de façon sibylline par l'esprit pétillant qui vient de prendre la parole, Souleymane Bassir. Le professeur Souleymane Bassir Diagne, qui pose le problème à la limite du statut du journaliste. L'interpellation qu'il fait du journaliste par rapport à ce que doit être ses rapports avec la science et l'homme de science, en filigrane, il cache quelque chose. Est-ce qu'à terme, est-ce qu'il va y avoir des journalistes scientifiques à brève échéance? Parce qu'il n'y aura plus de journalistes. En tout cas, il n'y en a plus. Pour une raison bien simple, que depuis que l'irruption d'Internet est une réalité, ce qui était le corps de notre métier, l'opinion, la matière sur laquelle on travaillait, qui s'appelait l'opinion, on n'en a plus prise. Aujourd'hui, tout le monde a ce petit outil du diable qu'on appelle le smartphone, qui peut faire le même travail que le journaliste en mal, malheureusement, avec une force d'amplitude que le journaliste n'a pas. Parce que bon, on s'embarrasse de considérations déontologie, il nous faut recouper des sources.
Oui, mais là, justement, en science, et on est bien tous d'accord là-dessus, on doit s'embarrasser de questions déontologiques.
C'est la question. C'est encore plus, si pour un fait divers, on est obligé de faire des recoupements, on est encore assujetti beaucoup plus à plus de rigueur si on est dans un domaine qui s'appelle la science. Il faut faire de la vérification, aller prendre la bonne source qui fait autorité pour qu'on puisse en parler.
Mais en même temps, on en a tellement besoin aujourd'hui, vous êtes bien d'accord.
Je reviens encore à l'épisode de la pandémie qui a été plus une infodémie qu'était une pandémie. Dans la journée, on avait une myriade de sources contradictoires, souvent venant de mêmes personnes ressources. Je prends simplement l'exemple de l'OMS, qui est l'autorité mondiale sur les questions de santé. Mais on nous avait prédit en Afrique l'Holocauste. Mais comme par hasard, les Africains ont résisté beaucoup plus que
c'est
tout le monde.
C'est vrai.
Pourquoi ça? Parce que simplement, une fausse information a été portée par quelqu'un qui était censé une autorité dans un domaine, mais parce qu'il n'avait pas la maîtrise. Et c'est le caractère irruptif de la chose qui s'appelle la pandémie qui a surpris tout le monde, qui a fait que, bon, les gens...
On a été beaucoup trop vite aussi.
Tout le monde
aussi.
A été largué, y compris les journalistes qui n'ont fait que reprendre pour l'essentiel.
Absolument.
Et au meilleur des cas, ils se transmuaient eux-mêmes en experts. Parce que
mais comme vous le dites, c'est ça qui a secoué un petit peu tout le monde et qui permet peut-être d'envisager aujourd'hui de faire ça autrement pour que ça ne se reproduise pas. On arrive à la dernière partie vraiment de cette émission. J'aimerais bien, du coup, on a parlé de ce qui n'allait pas, on a parlé des obstacles, mais on n'a pas tellement parlé de ce que vous faites. Or, vous faites tous un boulot considérable. Alors, quels sont vos rêves, vos envies? On va se refaire un petit tour de table. Ah, Kossi Balao, vos rêves, vos envies, maintenant que vous avez réussi à amener ici à Dakar tous nos collègues et amis et consoeurs journalistes scientifiques francophones.
C'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours un grand rêve, celui de construire ici en Afrique francophone une école de journalisme scientifique. Une école qui forme, j'ai toujours porté ce projet, non seulement au départ quand je me suis lancé dans ce métier, quand j'ai commencé cette aventure, et que je n'étais pas encore dans la science, c'était d'avoir en Afrique une vraie école de journalisme. C'est vrai, il y a le CESTI, mais tous les étudiants dans les pays comme le Togo ou le Bénin n'ont pas les moyens pour venir faire le déplacement ici, à Dakar. La vie est encore plus chère, le loyer c'est cher. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir ce luxe. Alors, on peut aussi avoir peut-être en Afrique une école de journalisme aussi digne de ce nom. Donc, c'est un projet que j'ai toujours porté. Mais maintenant que je suis averti à 100% dans la science, ce sera une école de journalisme scientifique.
Parce une école de journalisme avec une grosse option scientifique. Ouais. On est d'accord là-dessus aussi?
Bien sûr. Et la raison aussi, c'est aussi parce que les défis auxquels sont confrontés le continent africain sont basés sur la science. Qu'on parle d'énergie, qu'on parle de climat, qu'on parle de climat d'agriculture, et la science a des réponses. La science, elle est fascinante en fait. Vous imaginez comprendre comment le cerveau d'un humain fonctionne. Alors, amener les gens à s'intéresser vraiment à la science. Je pense que la science peut aider vraiment le continent africain à résoudre nombre de ses problèmes. Et les journalistes font partie de ces solutions. Alors, avec cette école.
Merci de le rappeler. Aussi. Alors Adrienne, ce serait quoi Adrienne, votre rêve, vos envies, vos...
En fait, une école de journalistes scientifiques, oui, peut-être. Mais moi, je dis, il faut susciter des vocations auprès des jeunes. Même dans les rédactions, déjà, on peut amener les jeunes à s'intéresser à la science, à l'information scientifique.
Les jeunes et les femmes aussi?
Oui, jeunes, globalement, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare la relève. Nous n'allons pas nous éterniser à faire du journalisme scientifique. Il faut préparer la relève. Et ce que je vais dire, c'est qu'il peut bien se former en journalisme scientifique. Peut-être ce sera le raccourci pour lui pour demander de l'emploi en journalisme au desk politique, ainsi de suite. Mais il faut déjà susciter la passion du journalisme scientifique.
Espérons qu'en vous écoutant, chère Adrienne, on va susciter des vocations. On arrive à la fin de cette émission. Julien Chongwang de Saïdev au Cameroun, c'est quoi votre rêve, votre envie, votre prochain reportage peut-être? Ça fait plein de questions, donc il faut en choisir une.
Je préfère commencer par le rêve, n'est-ce pas, pour dire que mon rêve serait de voir qu'en Afrique, n'est-ce pas, les décideurs s'appuient sur l'information scientifique pour prendre des décisions. Permettez-moi la répétition, mais ça vaut la peine. Il est souhaitable donc que nous mettions en place une sorte de stratégie qui fasse en sorte que les décideurs, les autorités publiques comprennent que leurs décisions ne doivent pas s'appuyer uniquement sur leurs ambitions politiques ou bien sur leurs projets électoraux, mais ces décisions doivent être basées sur la recherche scientifique. Et c'est pour ça qu'à SciDev, nous avons notre slogan.
Site,
voilà, notre slogan, c'est rapprocher la science et le développement. Et si vous lisez les articles de SciDev, vous allez vous rendre compte que nous trouvons le moyen toujours, n'est-ce pas, lorsque nous traitons une information scientifique, de donner la parole aux décideurs. Ça peut être des décideurs au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais parfois au niveau international. Et nous avons mis en place cette stratégie parce que justement, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toujours facile d'aller parler au ministre lui-même pour qu'il réponde à une question. Alors nous nous sommes dit, si le ministre ne peut pas répondre à la question pour nous dire s'il est capable de demander qu'on mette en pratique les résultats de telle étude qui vient d'être produite, alors peut-être le maire d'une localité, peut-être à son niveau, peut demander, pour encourager, ou alors le conseil municipal ou un conseil municipal peut porter les résultats d'une telle étude au niveau local. Donc voilà comment nous avons essayé de percevoir la chose. Et donc pour nous, parce que ça ne servirait à rien si nous produisons des articles qui n'ont pas d'impact.
C'est vrai.
Qui n'ont pas d'impact sur la société dans laquelle nous vivons et qui a un grand nombre de défis encore à relever. Donc notre rêve au niveau de SciDev, et que je partage à 1000%, si vous voulez, c'est de s'assurer que l'information scientifique est utilisée par les décideurs pour s'orienter dans l'action publique, dans les politiques publiques.
C'est le meilleur qu'on puisse, ceux et nous, souhaiter et vous souhaiter. Le mot
Merci.
De la fin est pour vous, Mustapha Sen.
Moi, c'est le rêve de tout vieil Africain qui est à mon âge. C'est le leg, que le leg ne soit pas perdu. En proverbe wolof, ce qu'il y a de plus tragique, je traduis en wolof.
Mais dites-le en wolof.
Moudé pousseau, cœur, ti diamono rif, ti diamono raflé, rerel pousseau. Pousseau, c'est l'aiguille, quoi. L'aiguille qui permettait, en période de dèche totale, où les gens ne pouvaient pas trouver d'habits pour se faire, les gens, c'est avec des sacs de jute qu'ils s'habillaient. Bon, l'instrument le plus cher, le plus utile à la maison, c'était les grosses aiguilles qui permettaient de rafistoler pour que les gens puissent se mettre quelque chose. Donc, c'est un peu ça, le like. Il y a quelque chose... Moi, le message que je veux porter aux jeunes journalistes, parce que c'est avec eux que je suis en phase, mais au-delà de la jeunesse journalistique, de la jeunesse africaine, il faut que ce capital qui existe, parce que ce qu'on appelle la science, c'est une science qu'on suppose être. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos sciences, de nos sociétés?
Bien sûr, et de tous les savoirs.
Dans des écocultures, dans nos communautés, dans nos cosmogonies. Ça également, c'est une science que les jeunes doivent reconnaître du point de vue de leur dignité épistémologique, d'abord pour les reconnaître comme telles. Mais je ne crois pas que les jeunes soient ça. Comme on est dans un processus de transmission, que les porteurs des nouvelles technologies qui en ont les maîtrises se bagarrent pour mettre du contenu. Tout le monde maîtrise la technologie, mais quel contenu y mettre? Si vous maîtrisez une technologie et vous consommez du contenu des autres ou vous mettez du contenu des autres, à la limite, c'est de l'extraversion. Autant faire un focus sur ce que nous sommes, sur ce que nos sciences ont représenté, les valoriser et leur donner leur dignité qu'ils requièrent, Et de travailler à les médiatiser, parce que le monde a évolué dans ce domaine-là.
Et qu'on a besoin de tous les savoirs scientifiques, on est bien d'accord. Je vous remercie infiniment tous les quatre, Kossi Balao, Adrien Ngono, Mustapha Sen et Julien Tchongwang, de nous avoir éclairés, donné envie. Tous les défis à relever sont immenses, mais pour nous tous, journalistes scientifiques en francophonie et sur le continent... Merci au public qui est venu nombreux. Merci à tous les collègues, journalistes, scientifiques, francophones de toute la francophonie qui sont là. On va se quitter peut-être. On a deux Camerounais autour de cette table. Alors on va se quitter autour de votre choix musical. Julien Tchongwang, importé du Cameroun. On écoute Doudou Numbe sur RFI. On vous dit au revoir depuis
Doudou
Dakar.
Doudou Numbe.
Ah, allez-y, Kossi. Julien, comment on dit?
Doudou Numbe. Honoré Doudou Numbe.
Si. Autour de la question à Dakar, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Un grand merci à Thibaut Baduel, notre réalisateur nomade et toujours inspiré. Merci à Caroline Fillet d'être là, toujours encore là, heureusement en coulisses. Un grand merci à toute l'équipe de l'Institut français de Dakar de nous avoir accueillis. Et je signale à nos amis auditeurs et auditrices qui sont à Dakar que tout autour de l'Institut français sont exposées les magnifiques photos scientifiques et artistiques autour de l'expédition Tara, qu'on se le dise. Et puis n'oublions pas de remercier toute l'équipe organisatrice de cette semaine du journalisme, la conférence des journalistes scientifiques francophones à Dakar pour tous ces échanges fructueux, et ce n'est qu'un début. À bientôt donc. La semaine prochaine, c'est Antonio Fischetti qui me remplacera à ce micro depuis Paris. Chers amis auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles ici à Dakar, où vous nous écoutez sur 92 FM. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations.